L'invité de l'écho des pavanes.
Bonsoir Jean-Jacques Birger.
Bonsoir Benoît Perrier.
Vous êtes musicien, artiste, concepteur multimédia. On dirait que vous n'arrêtez pas de produire depuis plusieurs décennies sur à peu près tous les supports possibles et dans toutes les configurations. Mais ce qui vous amène à moi ce soir, c'est la parution de Perspectives du 22e siècle. C'est un disque édité par le Musée d'ethnographie de Genève où vous construisez une nouvelle œuvre à partir de la collection universelle de musique populaire enregistrée. Ça, ce sont 169 pièces de presque toute la planète qui ont été enregistrées dans la première moitié du XXe siècle. Comment est-ce qu'on vous a proposé ce projet, Jean-Jacques Birger ?
En fait, le disque précédent qui avait eu un succès d'estime, du moins important, c'était mon centenaire. C'est-à-dire que j'ai fait un travail sur 1952-2052 en commandant un tombeau à un ami compositeur pour le 2052. Donc il y avait une partie anticipation déjà dans ce disque. Et tout le monde rigolait en disant qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Tu vas fêter ton bicentenaire? J'ai dit, ah ben non, je serai mort là, il faut pas exagérer, d'ailleurs on sera tous morts. Et je rencontre Madeleine Leclerc, que j'avais rencontrée au Quai Branly quand elle était à Paris et qu'elle s'occupait, qu'elle était déjà ethnomusicologue là-bas, qui me dit qu'elle a cette collection de se servir, l'idée de se servir des archives sonores, parce qu'elle a 20 000 phonogrammes dans ses archives, et de les proposer à des compositeurs contemporains. Alors je me suis dit, c'est intéressant parce que je pourrais travailler sur le futur, mais comme on a un peu oublié toutes les qualités, on a oublié beaucoup de choses des anciens, je me suis dit ce serait intéressant de se demander après la catastrophe, puisque catastrophe ne manque pas d'y avoir, on le voit puisque il y a eu le Covid là récemment et le disque est d'autant plus d'actualité, après une grosse catastrophe, les survivants de 2152 décident de se reconstruire et ils ont élu campement sur les ruines du musée ethnographie de Genève. Et là, à partir des archives sonores, ils se demandent comment est-ce qu'ils pourraient vivre mieux. Donc on est complètement dans l'actualité là pour beaucoup de gens. Hein. Et à partir de là, Madeleine Leclerc m'a proposé les archives du fonds Constantin Braille-Loyou, qui est le premier ethnomusicologue qui a fait un travail comme ça de rassembler des pièces du monde entier. Et il les a créées au MEG, au Musée d'ethnographie de Genève.
Vous vous attendiez justement à une aussi grande richesse de matériaux. Le livret du disque est très joliment fait. Il y a des photographies assez belles qui nous plongent aussi dans ce monde un peu onirique et d'anticipation. Mais chaque titre est accompagné des mentions, des enregistrements originaux qui ont servi à faire cette nouvelle œuvre. Et on voyage comme ça sur tous les continents. Est-ce que donc vous vous attendiez à une telle richesse ?
Je savais pas du tout ce que j'allais trouver. Hein. C'est énorme. Alors, Constantin Braille-Loyou a rassemblé beaucoup plus de pièces que ça. Hein. Il y a simplement un coffret de 4 CD qui a été édité dans le passé par le MEG, qui a été ma base. À partir de là, moi, j'ai dû choisir les pièces qui m'intéressaient le plus et comment me les approprier, parce que je viens pas du tout de la musique traditionnelle. Donc je me suis dit, mais en fait, musique traditionnelle, musique contemporaine, rock, jazz, etc., ça veut rien dire tout ça, c'est un espéranto la musique. Donc j'ai choisi d'abord des pièces qui rentraient dans mon propos, et mon propos c'était la fonctionnalité de la musique. Et j'ai été extrêmement surpris à la fin du travail de me rendre compte que Braille-Loyou avait fait exactement ce travail. C'est-à-dire qu'il s'en fiche complètement, j'exagère, hein, mais la géographie compte beaucoup moins que la fonctionnalité. Je veux dire que
qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jean-Jacques Birger?
Une berceuse, c'est une berceuse dans le monde entier. Une musique de chaman au Pérou ou en Mongolie, ça se ressemble. Et ça, c'était très intéressant, des chants de travail, des chants de gardiens de troupeaux, il y a des points communs à tout ça. Et ça a été le gros travail de Braille-Loyou, et c'est exactement cette idée que j'avais au départ, c'est-à-dire comment aller chercher... vous savez, on a perdu beaucoup de choses. Les femmes, avant, étaient celles qui étaient les gardiennes des graines, de savoir où est-ce qu'il fallait les planter, pourquoi, et ça se repassait de génération en génération. Et puis on a perdu beaucoup de choses. Donc je me suis dit, après une catastrophe, vous savez, je pensais à Ramu. Ramu est un de mes auteurs préférés Et il y a un livre, Présence de la mort, qui m'a beaucoup inspiré. Alors le titre est terrible, mais c'est un livre de science-fiction. Hein. Absolument fabuleux, une langue, c'est la plus belle langue qui soit du français. Et je me suis inspiré de ça, c'est-à-dire que la température monte, et les neiges éternelles fondent, vous voyez ce qui se passe, permafrost, etc., on est en plein dedans, quoi. Donc je me suis dit, ben, pourtant, c'est d'une dystopie, comment la tourner en une utopie, et que à partir de ce passé, on se dise, mais qu'est-ce qu'on a perdu, et quelles sont les valeurs qu'on a perdues. On est dans un engrenage complètement délirant qui s'est emballé, la folie de la vitesse, de la technologie, etc., et on contrôle plus rien.
Parce qu'on est bien d'accord qu'il y a, vous le disiez au début, hein, mais il y a un double décalage. Il y a le regard qu'on porte aujourd'hui sur des documents et des archives qui ont été enregistrés il y a de ça 100 ans, et le regard qu'on imagine que des gens en 2152 porterait sur un peu ce que nous on faisait et la manière dont nous on avait traité aussi ces documents d'il y a 100 ans.
Oui, c'était le grand écart qui m'amusait d'être entre les deux, évidemment, parce que pour moi la musique, si vous voulez, quand on l'écoute, et c'est valable pour tous les auditeurs, ça n'a pas d'âge, c'est le moment où on l'écoute. On n'est pas forcément, quand on écoute du Bach, on n'est pas forcément renvoyé à la période, on l'écoute à ce moment-là, et ça nous émeut dans ce qu'on est en train de vivre de nos vies. Il y a un phénomène d'identification qui fonctionne. Donc, encore une fois, je disais, la géographie passe après, mais l'histoire aussi. Ce qui est important, c'est les émotions, c'est qu'est-ce que la musique produit. Et alors, ces musiques-là ont produit chez moi des fortes émotions que j'ai essayé de m'approprier. C'est-à-dire qu'à partir des pièces, j'ai pas fait de travail, j'ai essayé de pas être un iconoclaste. C'est-à-dire de faire quand même une vraie appropriation, une création qui me soit propre, mais en respectant les anciens. Ça, c'était très important. Alors, j'ai rajouté sur ces archives, j'ai commencé par enregistrer des ambiances, les resituer dans le pays, dans des paysages, enregistrer également des instruments. Et puis ensuite, j'ai demandé j'ai invité d'autres musiciens à venir se joindre à moi, parce que moi, j'utilise beaucoup d'instruments d'aujourd'hui, des échantillonneurs. Bon, je joue beaucoup de clavier, même si je joue aussi beaucoup d'instruments acoustiques. Mais j'ai eu envie aussi de demander à 4 musiciens de venir. Et encore de noyer le poisson.
Parce comment
que chaque
ça
fois, bah oui, parce que, en fait, si vous voulez, j'ai essayé de noyer le poisson d'abord en faisant comme si ces archives de 1930 à 1952 étaient d'aujourd'hui. Donc, comment arriver à les tordre, à les habiller pour qu'elles sonnent, pas du passé, mais qu'elles sonnent de toujours.
Alors justement, Jean-Jacques Birger, j'aurais des questions sur le grain de ces archives et la manière dont vous les avez traitées, mais il faut qu'on les écoute tous ensemble avant, et j'aimerais qu'on écoute un premier extrait donc de cet album qui s'appelle Meg 2152, c'est donc les deux mamelles du projet. Meg, c'est le musée d'ethnographie de Genève, et 2152, c'est l'année où vous nous catapultez.
Thank you.
Meg 2152, votre œuvre, Jean-Jacques Birger, et l'œuvre aussi de nombreux musiciens qui vous ont précédé, puisque c'est un véritable palimpseste. On entendait votre voix, on vous entendait également jouer de l'orgue de cristal, on entendait la voix de votre fille qui disait ainsi « Nous avons tout à reconstruire ». Et c'était peut-être vous d'ailleurs qui disiez que la chaleur était devenue absolument insupportable, ce qui est ma foi tout à fait d'actualité aujourd'hui. Oui. Et puis avant ça, eh bien, des enregistrements réalisé en Suisse dans les années 40, en 1942 pour être précis. Vous vous apprêtiez, avant que je ne vous interrompe en diffusant votre musique, à nous expliquer comment vous traitiez ces archives de manière à ce que le grain, le timbre, disons l'aspect de ces documents anciens s'intègre de manière aussi harmonieuse à de la musique, elle, enregistrée aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez fait ça ?
En fait, je viens du cinéma, moi. À l'origine, j'ai fait l'IDEC, l'école nationale, l'ancêtre de la FEMIS, l'école nationale de cinéma. Donc, tout mon travail, l'origine, je suis un autodidacte en musique, mais pas en cinéma. Et j'ai dû réinventer complètement un langage depuis longtemps, parce que ça fait maintenant près d'un demi-siècle que je fais ce travail, mais à partir du cinéma, c'est-à-dire de fabriquer des fictions. C'est pour ça que j'ai pensé aux poèmes symphoniques de Berlioz ou de Richard Strauss, c'est-à-dire des évocations, un peu comme des évocations radiophoniques, ce que les Allemands appellent Hörspiel. Donc j'ai essayé de rendre, comment dire, il y a une phrase de Cocteau qui me guide toujours, c'est ne pas être admiré, être cru. Comment rendre crédible les archives en général, comment arriver à avoir une suite qui, alors que ça a été enregistré sur des continents très différents avec des machines anciennes, comment arriver à les faire sonner pour qu'il y ait une homogénéité, puisque tout ça se passe quand même à Genève, où des migrants du monde entier se sont retrouvés. Il y a une pièce où il y a 18 langues maternelles, 18 personnes, chacune dans sa langue maternelle, qui parle de ce qui se passe. Il y a assez peu de paroles dans l'ensemble de l'album, mais celle-là était importante. Donc j'ai d'abord transformé, replacé, je dirais, dans un espace. J'ai beaucoup travaillé sur des effets de réverbération, de placement, rajouté mes instruments. Mes instruments sont souvent des instruments virtuels. Et c'est pour ça que je disais, et j'ai encore une fois noyé le poisson en demandant à des musiciens acoustiques. Oui, oui, mais j'ai demandé à des musiciens acoustiques, c'est-à-dire un violoniste, un corniste, un saxophoniste clarinettiste et un percussionniste. Je leur ai demandé de rejouer par-dessus ce que j'avais fait moi déjà, puisque je joue de la flûte, je joue de la guimbarde, je joue d'instruments très bizarres qui sont acoustiques, et des percussions d'ailleurs qui viennent du musée. C'était drôle aussi de se dire que ces survivants avaient découvert des idiophones sur les ruines du musée. Donc toujours essayer de s'approprier, de trouver une forme. Et je dois vous avouer que ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, tout n'est pas écrit à l'avance. J'ai avancé chaque fois, j'avançais sur les. Il y avait 11 pièces au début, puis j'ai rajouté des petites pièces Ensuite, où il n'y a pas forcément d'ailleurs d'archives, de façon à ce que ça respire. Mais chaque fois, je travaillais sur l'ensemble des pièces. Je laissais reposer 15 jours, 3 semaines, je recommençais à travailler, je remettais une couche, etc. Et je recommençais à travailler dessus.
Est-ce que c'est allé, Jean-Jacques Berger, jusqu'à vous faire oublier parfois la source de ces enregistrements? Est-ce que, à force de travail et de rejouer des motifs ou de traiter le son, on en finit par oublier, en l'occurrence là, que ce Cor des Alpes a été enregistré en 1942?
Non, ça j'oubliais pas. Non, j'oubliais pas parce que je fais toujours très attention aux musiciens avec qui je joue. Je les respecte énormément. J'essaie de les mettre dans un confort quand ils enregistrent. On enregistre chez moi, j'ai mon propre studio. Hein. Donc, j'essaie toujours que ce soit très confortable. Alors, même s'ils ont disparu depuis longtemps, j'essayais à ce que ces musiciens du passé soient très confortables. Donc, non, j'oubliais jamais à qui j'avais affaire.
Vous insistez d'ailleurs dans les notes de pochette du livret sur le respect dû à ces enregistrements et alors par extension aux personnes qui ont gravé ces musiques il y a longtemps. Vous éleviez un peu en faux contre certaines utilisations plus proches peut-être du remix ou à coup de, disons, de ciseaux très, très serrés et à coup d'échantillonnage, on découperait, voilà, on saucissonnerait tellement ces enregistrements de base qu'on en perdrait un peu la source. Et vous, dans les notes de pochette en tout cas, vous faites l'avocat d'une utilisation très respectueuse et extensive, disons. Est-ce que vous voulez élaborer un tout petit peu là-dessus?
Oui, bah c'est vous avez très bien.
Ok, j'ai bien résumé.
Compris. C'est-à-dire que en fait, pendant 32 ans, j'ai eu un orchestre qui s'appelait un drame musical instantané, qui a été échantillonné par beaucoup de musiciens, soit en me demandant mon autorisation, soit sans me le demander. Ça m'a toujours fait plaisir qu'on me pirate. Mais il y a eu des remixes, il y a eu même des disques entiers de remixes à partir de ma musique qui ont été faits par différents compositeurs. Et j'étais toujours un peu contrarié parce que, un, je comprenais pas pourquoi ils appelaient ça remix, parce que je ne reconnaissais pas les échantillons qu'ils avaient pris dans ma musique. Et surtout, le sens même de ce que j'avais voulu y mettre était perdu. Donc j'étais souvent contrarié, je me disais, bon, ça peut être contrarié par rapport à l'idée de remix, pas par rapport à leur musique pouvait être très réussie, mais je comprenais pas très bien l'intérêt de parler de remix quand on perd les sens de l'origine.
Alors, on va écouter un deuxième extrait et on va essayer de déterminer ensemble avec vous aussi qui nous écoutez si on perçoit justement le sens de l'origine dans ce projet Perspective du 22e siècle que vous livrez, Jean-Jacques Berger, pour le Musée d'ethnographie de Genève. En l'occurrence, on se déplace alors un tout petit peu au large des îles britanniques et en même temps en Géorgie et puis aussi en Macédoine. Ça s'appelle Aksak Tripalium. Un chœur pour finir, Aksak Tripalium, extrait de Perspective du 22e siècle, votre œuvre et votre disque, Jean-Jacques Birger. On était donc là, je le disais, un petit peu en Géorgie orientale, mais aussi dans les Hébrides, avec toutes sortes également de musiciens qui ont enregistré avec vous. On entendait notamment beaucoup de cuivre et d'autres vents. Et je voulais vous demander dans quel domaine fonctionnel on était, puisque plus tôt dans cet entretien, vous disiez que les usages de la musique, ces fonctions vous fascinaient. Là, dans quel domaine de la vie est-ce qu'on se situait ?
Ça, c'est très simple, parce que tripalium, c'est l'origine du mot « travail ». C'est aussi instrument de torture, ce qui est quand même assez particulier. Mais voilà, ce sont des chants de travail. Et Aksak, pour simplifier, ce sont des rythmes irréguliers, genre 13-8, 15-8, 17-8 pour les spécialistes. Mais voilà, c'était l'idée le rythme du travail. Une pensée. J'ai souvent des pensées, subliminales, comme les temps modernes de Chaplin, des choses comme ça, au moment où je travaille là-dessus. C'est chant de travail.
Un autre moment qui m'a intrigué à la lecture des belles notes de pochette qui accompagnent ce disque, vous mentionnez que vous étiez donc à Genève pour travailler et qu'à un moment vous étiez dans l'exposition permanente du musée d'ethnographie de Genève. Il faut peut-être décrire à ceux qui n'ont pas vu le musée rénové qui a ouvert il y a maintenant un moment, mais qui est assez spectaculaire puisque on descend dans un espace d'exposition qui est donc dans le cœur sous terre, disons, du musée. On a un peu l'impression de descendre un peu comme on descendrait dans une pyramide, par exemple. Et là, vous dites que dans l'exposition permanente, vous avez vu une scène qui vous a paru incroyable, mais on reste un tout petit peu sur sa fin puisqu'on ne comprend pas très bien ce qui vous est arrivé et que ça vous a inspiré pour ce projet.
Oui, j'ai voulu rester énigmatique, parce que c'est quand même assez particulier. Pour tout vous dire, il y avait des handicapés qui, ce jour-là, visitaient le musée et qui pouvaient pas s'empêcher de crier. Et par rapport à la fiction que je développais, j'ai pensé aux Ibakusha. Les Ibakusha, c'est un des titres, c'est le titre de la pièce que j'ai enregistrée à ce moment-là. Ce sont les survivants de l'explosion d'Hiroshima. Donc c'était, si vous voulez, en sous-sol, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites en sous-sol à Genève, donc ça m'intéressait aussi que ça se passe là-dessous. Moi j'appelle ça du field recording, Madeleine Leclerc préfère phonographie, mais voilà, c'est du reportage sonore retravaillé de façon à ce que ça fasse musique. Aujourd'hui, entre bruit et musique, il n'y a plus, du moment que, disons que toute organisation de son est musique pour moi. Hein.
Mais c'est quelque chose de pris sur le vif, en tout cas, ça c'est une caractéristique importante.
Je me demandais... Je ne m'attendais pas, c'est une rencontre improbable. Vous savez, il y a toujours... Je suis compositeur, mais je suis d'abord improvisateur. Et je pense toujours que je peux improviser avec n'importe qui à condition qu'on accepte mes idées du hurluberlu. Mais me retrouver dans des conditions inattendues comme ça, c'était formidable, quoi. C'était extrêmement émouvant. Donc j'ai rajouté cette petite pièce Ibakusha tournée dans le musée, qui en effet, il faut absolument aller visiter ce musée, il est magnifique.
Est-ce que vous pensez, Jean-Jacques Birger, aux traces que vous laissez, vous ? Vous êtes un musicien très actif qui publiait beaucoup d'enregistrements. Est-ce que vous vous dites parfois, sans même penser à la postérité critique, mais que dirait un archéologue du 22e siècle s'il tombait par exemple sur le site drame.org qui est en activité depuis plus de 20 ans ?
C'est drôle, mais en général, c'est plutôt le contraire auquel je pense. C'est-à-dire, je pense plutôt qu'est-ce qu'auraient pensé les musiciens avec lesquels j'ai joué là et qui ont disparu, qu'est-ce que penserait Constantin Brailoyou ou qu'est-ce que penseraient les musiciens qui me sont chers comme Edgar Varèse, Charles Ives ou Frank Zappa par exemple, qu'est-ce qu'ils penseraient aujourd'hui de mon travail. Je pense plutôt à eux plutôt qu'à ceux qui me suivront. Mais oui, ça j'y pense souvent, disons, vas-y donc, parce que ces gens dont je parle ont rêvé certaines musiques qu'il était impossible de faire à l'époque. Je pense par exemple à Varèse. Et aujourd'hui, c'est devenu... Tous ces rêves Mais je pense que ça me rend presque triste, parce que je me dis tout ce dont il a rêvé et qu'il ne pouvait pas faire, aujourd'hui, on peut le faire. Alors ça, c'est oui, ça, c'est quelque chose qui m'émeut. À laquelle je,
par exemple, à laquelle qu'est-ce qui est devenu si facile, mais que il y a 100 ans, on ne pouvait pas réaliser.
Par exemple, Varese ne supportait pas les cordes. Il trouvait que c'était idiot d'avoir un des pupitres de 40 cordes, alors qu'on pouvait les amplifier et avec ça faire des effets particuliers. Par exemple, les échantillonneurs, c'est quelque chose, il aurait rêvé. Il avait imaginé travailler avec Russolo et ses instruments bruiteurs. C'est un des premiers à avoir travaillé avec des ondes Martenot, à avoir essayé le thérémine, etc. Donc tous ces nouveaux, la nouvelle lutherie en particulier, ça donne des possibilités incroyables. Quand je fais une musique de film, dans le temps, on me disait, t'en fais pas, tu vas avoir un orchestre dans un pays de l'Est, etc. Puis alors le budget devenant peau de chagrin, on faisait quelques musiciens, puis à la fin, tu pourrais pas faire ça tout seul avec tes instruments.
Avec un synthétiseur, oui.
Avec un, voilà, et moi je joue du synthétiseur depuis 73, hein. J'étais un des premiers synthésistes en France, je me suis intéressé vraiment à ces sons de synthèse, et d'ailleurs je pense la musique, souvent, quoi, je pense les sons en écoutant les bruits du monde et en me disant comment est-ce que c'est fabriqué, souvent c'est plutôt que l'harmonie et le contrepoint, c'est comme ça que je fonctionne. Donc par rapport à, je perds un peu le fil de
non mais
je digresse.
On parlait du fait que voilà, des rêves de musiciens d'autrefois, des rêves qu'ils ont couchés sur le papier. Alors, parfois on aimait beaucoup quand même, il y a 100 ans, proposer des manifestes et des anticipations de la musique qui viendrait, de la musique à venir. Des rêves donc qui semblaient tout à fait inatteignables sont aujourd'hui réalisables avec des techniques comme celles que vous employez.
Ouais, les échantillonneurs, les synthétiseurs ont permis... Bon, maintenant, ça remplace pas, hein. C'est-à-dire, on fait pas la même chose avec mes instruments. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand moi, je suis devant mon clavier, je peux avoir un orchestre symphonique au bout des doigts et improviser avec. Aucun orchestre symphonique ne me permet de faire ça. Alors, c'est pas la même chose. De même, je peux avoir... J'ai le clavier préparé, enregistré à l'IRCAM. C'est pas la même chose qu'un clavier préparé, qu'un piano préparé acoustique. Mais on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le piano acoustique préparé. Donc ce qui m'intéresse, c'est que ces nouvelles machines, ces nouveaux instruments, y compris d'aller chercher des bruits, des choses comme ça, ça me permet d'avoir une palette encore plus riche que l'orchestre. Ce qui ne m'empêche pas aussi de travailler avec des orchestres et avec des solistes comme là. Là, par exemple, la fanfare, évidemment, elle est faite en plusieurs pistes, mais au départ, je l'ai improvisée en fait au clavier, et puis Nicolas Chedmaï est venu jouer de la trompette, du saxhorn, du cor, Antonin Triwang est venu avec saxophone et clarinette basse, etc. Et on a refabriqué une fanfare avec des... Mais il y a une patte particulière, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire et qu'on peut faire. C'est et en particulier ce que je vous ai dit sur les espaces. J'utilise un logiciel qui permet de refabriquer n'importe quel espace. C'est-à-dire, je peux dire, je siffle dans le studio et je peux lui dire, on est
dans un igloo.
Voilà, on est dans un igloo ou on est dans un souterrain ou on est dans la forêt. Il y a des arbres tout au fond et il y a une clairière sur la droite. Je peux fabriquer ça aujourd'hui, c'est complètement dément. C'est fabuleux comme possibilité. Et je m'en suis pas privé. J'ai utilisé évidemment ces ressources-là dans l'île. C'est pour ça que je pense que c'est très bien intégré parce que j'ai fonctionné comme au cinéma avec des gros plans. Des décors avec des perspectives et je dirais même avec du hors-champ qui est un des éléments du cinéma qui m'intéresse le plus en tant que créateur sonore, c'est-à-dire ce qu'on entend et qu'on ne voit pas mais qui permet d'imaginer. Et le disque est complètement là-dessus, c'est-à-dire comment faire pour qu'on rêve et qu'on imagine des histoires et que chacun interprète à sa manière ce travail.
Alors moi je peux vous dire que ça fonctionne quand je l'ai écouté, muni de ces notes d'intention. On est en 2152, les survivants découvrent les restes du musée d'ethnographie et les documents sonores qu'on y trouve, muni donc juste de cette idée-là, sans même du tout regarder en fait les sources précises des enregistrements utilisés. On fait un voyage avec les oreilles tout à fait surprenant avec ce Perspective du 22e siècle, publié donc par le Musée d'ethnographie de Genève et ses archives internationales de la musique populaire. On va en écouter un dernier extrait et prendre congé de vous, Jean-Jacques Bierger, tout en vous remerciant vivement d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'Écho des Pavanes.
Merci beaucoup.
L'arme de crocodile, dernier extrait pour aujourd'hui de ce Perspective du 22e siècle, un disque de Jean-Jacques Bierger, publié par le Musée d'ethnographie de Genève, sourcé, disons, composé d'archives du Musée d'ethnographie de Genève. Jean-Jacques Bierger était notre invité aujourd'hui dans l'Écho des Pavanes.